cet après-midi. Alors je vais vous donner quand même quelques mots de mon témoignage. Ça va faire la jonction avec ce que mon épouse a dit. Donc elle vous a dit qu'un certain jour, je suis arrivé dans sa chambre chez ses grands-parents pour lui dire que j'avais rencontré Jésus. Alors, imaginez-vous un peu, vous êtes marié avec quelqu'un qui ne croit absolument pas en Dieu, je n'ai pas été du tout éduqué dans quelque religion que je sois, qu'est-ce que ce soit, pardon. Et puis j'arrive dans sa chambre, j'ai dit, voilà, je vais te parler de Jésus. Ah ouais, bon. Alors ce qui s'est passé, bien sûr que je venais de vivre quelque chose d'important. Ça a commencé, parce qu'il y a un cheminement dans cette affaire, au service militaire, quelqu'un m'a offert un Nouveau Testament. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un Nouveau Testament, il ne m'a rien expliqué. Je me suis retrouvé avec ce livre auquel je ne comprenais rien. De temps en temps, j'ai essayé, je ne comprenais rien, je fermais, terminé. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois... Alors, c'était avant notre mariage. J'étais dans ma chambre. Et là, j'ai dit à Dieu, « Maintenant, tu viens dans ma chambre. » Je lui ai donné des ordres. Hein. J'ai donné des ordres à Dieu. Je lui ai dit, « Tu viens dans ma chambre et tu m'expliques ce bouquin. » Et il n'est pas venu. Il valait mieux pour moi parce que j'aurais fait une crise cardiaque. Vous voyez, Dieu qui débarque dans ma chambre, ça aurait fait un choc. Hein. Dieu n'est pas venu. Mais Dieu qui est bon a quand même entendu ma prière. Elle est un peu bizarre comme prière. Hein. Dieu, si tu existes, tu viens et tu m'expliques. Bon, mais voilà, Dieu est bon. Et quelques temps plus tard, alors qu'on était mariés, quelqu'un vient vers moi, donc j'étais dans la police à ce moment-là, j'étais de passage à Marseille dans une caserne de CRS. Et dans cette caserne de CRS, un collègue de travail vient me voir et me dit, est-ce que tu veux que je t'explique l'évangile? Voilà. Sauf qu'il y avait un certain décalage, je ne sais plus combien de temps, et que je n'ai pas du tout fait le lien. C'était l'exaucement de ma prière un peu bizarroïde, mais c'était quand même une prière. Et Dieu qui est bon et qui ne s'est pas vexé, hein, Dieu n'a pas dit, écoute, quand tu me parleras mieux, je te répondrai. Non, Dieu m'a répondu, pas comme je le pensais, mais il m'a répondu. Ce collègue de travail m'a parlé dans un tête-à-tête, comme ça, dans une chambre de Jésus. Il était lui-même chrétien depuis quelques mois seulement. Il m'a parlé de Jésus 2-3 soirs, quelques heures, et ça m'a passionné. Ce qu'il me disait, c'était sur l'évangile de Jean, ça m'a passionné. Et au bout de ces quelques heures de discussion, il m'a amené tout simplement à me convertir, c'est-à-dire à demander pardon à Jésus pour mes péchés, je savais que j'avais péché, et d'accepter Jésus comme mon sauveur. Et là, je me suis converti en avril 83 dans une caserne de CRS à Marseille. C'est pas mal, hein ? Merci Seigneur. Et très vite, alors que je n'avais pas mis du tout les pieds dans une église, je ne savais même pas ce que c'était une église évangélique, j'ai vraiment changé. À l'intérieur, j'étais plus le même, j'étais chamboulé. Et puis je comprenais ce qui était écrit, en plus. Ça, c'était pas mal. Hein. Et puis, je me suis dit, mais pour parler de ça à ma femme, on était mariés depuis 6 mois, qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? D'abord, je ne connaissais pas grand-chose, parce que pour parler de Dieu, il faut quand même connaître quelque chose. Je ne connaissais rien. Mais elle n'était pas bien physiquement, à cause de son diplôme, donc c'est là qu'on y arrive. Et le jeune qui m'a amené à la foi au Seigneur m'a dit, ben, il faut, pour qu'elle guérisse, tu vas lui parler de Jésus et Jésus va la guérir. Ah, bon, ben voilà, ben on va y aller. Hein. Donc, une quinzaine de jours après ma conversion, ça veut dire pendant 15 jours à peu près, j'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. Eh bien, une quinzaine de jours après, je me retrouve dans sa chambre chez ses grands-parents, donc à Marseille. Et là, je lui ai raconté ce que je venais de vivre, cette conversion à Jésus, comment Jésus avait changé ma vie. Et voilà, et la suite, vous la connaissez, puisque c'est ce qu'elle vous a raconté. Donc, je lui ai parlé, et au bout de quelques heures de conversation, elle s'est convertie. On est revenu à Grenoble, puisque j'étais à ce moment-là rattaché à la CRS de Grenoble, et on a découvert l'église évangélique, et on a commencé à s'y attacher. Voilà, et ça a fait son chemin. Amen. Hein ? Je crois que ce qui est important dans tout ça, et ça fait un petit peu le lien avec ce que je vais vous dire cet après-midi, c'est qu'avec Jésus, il faut faire les choses bien et à fond. C'est-à-dire que Si on se convertit à Jésus, on ne le fait pas à moitié. On le fait ou on ne le fait pas. Jésus, c'est oui ou c'est non. Mais moitié-moitié, ça ne marche pas. Parce que si on fait les choses moitié-moitié, on ne va rien vivre de bon et on va être déçu. Et je pense que bien des gens, souvent, sont déçus parce qu'ils ont essayé de faire les choses à moitié. Ils ne s'en sont peut-être pas toujours rendus compte, mais on n'a pas fait les choses bien. Vous savez, Jésus, dans notre vie, il est dedans ou il est dehors. D'ailleurs, il dit à un moment, je frappe à la porte, hein, si quelqu'un ouvre la porte, voilà. Jésus, dans notre vie, et c'est vrai, il est dedans ou il est dehors. Vous n'allez pas avoir dans votre vie la moitié de Jésus dedans et la moitié de Jésus dehors. C'est impossible. Et finalement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que je veux Jésus en entier ou pas du tout? Mais avoir dans sa vie la moitié de Jésus, ça ne marche pas. Alors, on va lire deux passages, justement, qui nous parlent un petit peu de ça. Dans Philippiens, on va lire deux passages, Philippiens, Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3 et verset 12. Et ensuite, je vous lirai un passage qui y ressemble dans l'Évangile de Luc. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. Paul dit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis dans Luc 9, 62, Luc chapitre 9, verset 62, c'est Jésus qui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » En gros, là aussi, ça veut dire « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » C'est quiconque fait les choses à moitié, ça ne va pas. Si je regarde vers Jésus, et qu'en même temps, je regarde derrière, il va y avoir un problème. Ou je fonce, ou je ne fonce pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je cours vers le but. J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers le but. Et dans ces deux passages de la parole, on retrouve le même principe spirituel avec Jésus. Si on veut que ça se passe bien, si on veut vraiment bien vivre les choses, eh bien, il n'est plus question de regarder en arrière. Ce qui est passé, c'est passé. Avec Jésus, c'est devant et on fonce. Ce qui est passé, ce qui est d'avant, la conversion, c'est terminé. Le problème, c'est qu'en réalité, nous avons tendance à garder certaines habitudes et façons de faire, de penser, que nous ne voulons pas parfois abandonner et qui ne sont pas compatibles avec le fait de suivre Jésus. Et j'ai remarqué que souvent, lorsque des personnes viennent comme ça à l'église et n'avancent pas, c'est parce qu'elles regardent en partie en arrière. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir en regardant derrière. Ce n'est pas évident. On n'arrive pas. Et des fois, on se pose la question, on se dit, mais comment que ça se fait que cette personne qui écoute l'évangile, ça n'avance pas ? Quelqu'un qui est là depuis des années, qui est sur sa chaise, qui écoute la parole, qui est gentil, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois qu'il faut réfléchir sur ce que l'on vit et à un moment donné se dire, mais est-ce que j'avance avec Jésus? Est-ce que je fonce avec Jésus? Est-ce que je cours dans la direction de Jésus? Ou est-ce qu'il y a toujours des choses de ma vie passée que je souhaite garder et qui font que j'ai tendance à regarder aussi en arrière. Et il ne s'agit pas d'être des fanatiques, mais il s'agit de ne pas oublier, bien sûr, que nous sommes sur terre, mais on ne peut pas vraiment démarrer la vie avec Christ en gardant certaines choses du passé. Sinon, on va essayer de vivre les choses avec le Seigneur partiellement, la grâce de Dieu partiellement, une vie chrétienne partielle. Et ça ne marche pas. Et au bout du compte, on est déçu. Ça peut parfois être excessif, mais quand même. Dans l'évangile de Luc, dans ce passage que nous avons lu, dans Luc 9, 62, il est dit, juste avant, verset 60, Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et c'est là que Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il s'agit là de quelqu'un qui vient voir Jésus et qui dit, voilà, moi je veux bien te suivre, Jésus, mais, il y a la famille, mais il y a ceci, mais il y a cela, il y a un enterrement, Et je dis, stop. Maintenant, il faut que tu saches ce que tu veux. Tu suis Jésus ou tu ne le suis pas? Parce que vous savez, on n'est pas contre la famille, bien sûr, mais il y a des liens sentimentaux, ceci, cela. Bon, ce n'est pas toujours mauvais, mais à condition que ça ne nous empêche pas de suivre Jésus. Quand on s'engage à suivre Jésus, on le fait bien. Il est Dieu. Et la cassure avec la vie qu'on a menée avant, elle doit être claire, elle doit être nette, elle doit être franche. Il y a eu un avant et il y a un après. Pendant des années, j'ai vécu sans Jésus, sans foi, sans Dieu. Ça n'avait aucune importance dans ma vie. Et c'était le cas de beaucoup ici. Ça n'avait aucune importance. Pour nous, Jésus, c'est comme s'il n'existait pas. Et puis tout à coup, on découvre que Jésus existe. Mais ça change tout, ça. Ça change absolument tout. Et vivre en partie comme si Jésus existe et en partie comme si Jésus n'existe pas, c'est pas possible. Ou il existe et ça change toute ma vie et ma conception de la vie, ou il n'existe pas, et alors je m'éclate, je mange, je bois, je fais n'importe quoi, le temps que je peux profiter, ben je profite, et puis après, ben, ce sera fini. Mais si je crois que Jésus existe, alors c'est plus du tout pareil. Parce que Christ est mort pour mes péchés, passés, mais il n'est pas mort pour que je continue à vivre dans le péché jusque-là. Il me dit, maintenant c'est fini, toi tu viens, tu me suis, et on fonce, ensemble. La cassure, elle est claire. Paul, lui, il parle même de courir vers le but. Donc il y a un objectif. L'objectif, bien sûr, c'est de se retrouver un jour avec Jésus dans le ciel. Et on ne peut pas foncer vers cet objectif et regarder vers les choses de la terre. Il y a toujours le risque humain de regretter. On regrette. Parce que dans notre vie de péché qu'on a vécu autrefois sans Dieu, il y avait des choses qui nous plaisaient bien, évidemment. Il y avait des choses qui nous plaisaient. D'ailleurs, il est question un jour dans la parole de Dieu d'une femme qui s'appelle, c'est la femme de Lot. Elle vit dans un endroit où vraiment il y a beaucoup de mal, beaucoup de péché, beaucoup de violence, beaucoup de méchanceté. Mais dans cet endroit plein de méchanceté, de mauvaises choses, de péchés, dans cet enfer, on pourrait dire, ben, elle avait quand même sa vie, sa maison, ses habitudes, le marché, voilà, il y avait des choses. Et quand Dieu lui dit, tu vas quitter tout ça, tu vas te sauver, tu vas partir parce que Dieu va détruire tout ça, elle part, mais elle ne part pas volontiers. Son cœur est partagé. Elle part, et qu'est-ce qu'elle fait à un moment donné? Elle regarde en arrière. Et ce regard en arrière veut dire, je pars, mais je pars pas volontiers. Quelque part, je regrette quand même certaines choses. Eh bien, vous savez, si on part avec Jésus, en regardant en arrière, parce qu'on regrette certaines choses de notre passé, on va mourir. On va mourir, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le peuple d'Israël a connu ça aussi. Ils ont été esclaves en Égypte. L'esclavage en Égypte nous parle de l'esclavage du péché. Pharaon est un type du diable. Ils sont délivrés miraculeusement. Ils traversent la mer Rouge, qui est une figure du baptême. Une nouvelle vie s'offre à eux. Mais dans cette nouvelle vie, il y a quand même des difficultés. Et dans la vie chrétienne, il y a aussi des difficultés. Et vous savez, quand on rencontre des difficultés dans cette vie nouvelle, on se dit, oh, mais finalement, avant, j'étais pas si mal que ça. Et on commence à regretter. Et voilà que ces Hébreux qui étaient délivrés, qui étaient libres miraculeusement, ont commencé à se dire, oh, ben finalement, on reviendrait bien en Égypte. Là où ils étaient esclaves, là où, comme on l'a vu ce matin, il fallait noyer et tuer les bébés mâles, ils avaient envie de revenir. Imaginez-vous s'ils étaient revenus Pharaon leur aurait fait un comité d'accueil extraordinaire. Mais il y a comme ça des gens qui regrettent des fois. Et quand on est confronté à certaines difficultés de la vie chrétienne, parce que suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile, hein? Aimer, aimer son prochain, pardonner, servir Jésus-Christ, ce n'est pas toujours simple. Et des fois, on se dit, oh, mais avant, il n'y avait pas tout ça, c'était pas si mal. Voilà, maintenant, il faut que je sois un mari fidèle. Avant, je pouvais, avant, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais bon, ça plaisait, hein? La vie chrétienne, ce n'est pas toujours évident. Et certains arrivent même à regretter le temps où ils étaient esclaves de leurs passions et de leurs vices et de leurs péchés. Nous avons pris la direction du ciel avec Jésus. Et nous devons savoir, dans notre cœur, nous détacher de tout. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à partir avec Jésus? À n'importe quel moment. Oh non, Seigneur, je ne vais pas quitter ma voiture, je viens juste de l'acheter. Je ne veux pas partir avec Jésus, j'ai une belle maison. Eh ouais. Non, non. L'essentiel, c'est de partir avec Jésus. Hein. Dans ces versets que nous avons lus dans Philippiens, je vais y revenir, l'opposé de celui qui marche avec Dieu, c'est celui, il nous est dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Philippiens, chapitre 2, et verset 18, je crois. Non, c'est pas ça. Non, Philippiens 3. Chapitre 3, verset 18, je vais vous le lire. L'apôtre Paul dit, « Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » Donc en ennemis de Jésus-Christ. En ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Mais qui c'est ces gens qui parlent, qui vivent en ennemis de la croix. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Qui c'est ces gens? Verset 19, « Leur fin sera la perdition, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Marcher en ennemis de la croix, du principe chrétien, eh bien c'est vivre pour les choses de la terre. Au lieu de vivre pour les choses d'en haut, on vit pour les choses d'en bas. Ce qui veut dire que, là encore, c'est pareil que regarder devant ou derrière, on vit pour en haut ou on vit pour en bas. Ils ont pour Dieu leur ventre. Alors ceux qui ont un gros ventre ont un gros Dieu, et ceux qui sont tout maigres, ils ont un tout petit Dieu. Hein? Non. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, dit l'apôtre Paul. Mais nous, nous sommes citoyens, verset 20, des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens du ciel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire qu'on plane. Il y a des réalités terrestres, il faut travailler. La fatigue, ça existe. La faim, la soif, les problèmes de tous les jours, bien sûr, ça existe. Et nous ne vivons pas déjà dans le ciel, mais nous vivons quand même déjà pour des principes divins. Nous sommes déjà, dit la parole, citoyens des cieux. Amen. Le raisonnement de Paul, nous l'avons dans le livre de l'Ecclésiaste, où par rapport aux choses d'en bas, Salomon dit, « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. » Sur cette terre, tout est poursuite du vent, tout est vanité. On nous a appris, depuis notre plus tendre enfance, un système, un mode de vie, où tout ce qui compte, c'est de réussir sur la terre. Fais ceci, tu réussiras. Réussir sur la terre. Et voilà que notre modèle, Jésus, lui, a vécu tout le contraire. Jésus n'a pas cherché à réussir sur la terre, tout au moins pas au sens où nous l'entendons. Il nous dit au contraire de renoncer à tout et de le suivre en direction de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et renoncer à soi-même et se charger de la croix de Christ, ce n'est pas chercher la réussite selon les critères de ce monde. La plus grande victoire de Jésus sur la terre fut d'accepter la croix pour nous. Justement, la grande réussite sur la terre de Jésus, sa réussite à lui, c'est de s'abaisser jusqu'au rang des brigands, de s'abaisser jusqu'à la mort sur la croix pour que nous, nous soyons enrichis, pardonnés, sauvés. Amen. Mourir comme un brigand sur une croix à 33 ans, ce n'est pas une réussite selon les critères de ce monde. Mais parce qu'il a accepté cela, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, il règne au siècle des siècles, et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh ! Sur la terre, ce n'est pas une réussite, mais dans le ciel, c'est la gloire. Amen. Pour le monde, mourir comme Jésus est mort à 33 ans, c'est une vie gâchée. C'est une vie ratée. Mais devant Dieu, c'est immense. C'est une grande réussite dans le royaume de Dieu. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui est en train de préparer une grande réussite dans le ciel, parce qu'il s'intéresse de moins en moins aux choses d'en bas. Mais cette réussite, elle ne se voit pas. Elle sera révélée un jour lorsque nous serons avec lui. Quand le monde comprendra que rien n'est plus grand, que rien n'est plus important que le sacrifice de Jésus, pour beaucoup ce sera trop tard, parce que ce sera lors de sa rencontre. C'est quand on rencontrera Jésus que nous réaliserons pleinement combien c'est grand ce qu'il a fait pour nous à la croix. Pourtant, humainement parlant, c'est moins que rien. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Il a été mis au rang des esclaves. En attendant, chacun doit pouvoir réfléchir sur sa propre vie. Où en suis-je aujourd'hui vis-à-vis de Jésus? Quelle est la place de Jésus dans ma vie? Peut-être que jusqu'à présent, Jésus n'a eu aucune place. Mais il faut que ça change. Peut-être que j'aurais souhaité que jusque-là, Jésus ait une place partielle dans ma vie. Ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas. Ça ne marchera pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin? Si Jésus n'a pas pris toute la place dans ma vie, il y a une raison. Il y a quelque chose et je dois y réfléchir. Parce que vous savez, des fois on parle de cure d'âme, de guérison intérieure, de toutes sortes de choses pour que les personnes qui ont du mal à avancer avec Jésus soient, entre guillemets, délivrées. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir si Jésus j'en veux ou j'en veux pas. C'est comme ça. Et si je n'arrive pas à avancer avec Jésus, si je n'arrive pas à vivre pleinement la grâce de Dieu dans ma vie, c'est parce que Jésus n'est pas pleinement dans ma vie. C'est parce qu'il y a des choses du passé dont je ne me suis pas débarrassé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviendront un jour nouvelles. Non, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de notre réconciliation avec Dieu. Est-ce que ma vie passée m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui me ralentit? Qu'est-ce qui m'a peut-être parfois arrêté? Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est une question que je dois me poser. Si je n'ai pas encore accepté Jésus dans ma vie, je dois me poser cette question. Qu'est-ce qui m'empêche d'accepter Jésus? Jésus, c'est l'amour. Ça m'embête? Ça me pose un problème? Non. Jésus, c'est la paix. Ça me pose un problème, j'en veux pas? Si, en principe, ça va. Jésus, c'est la joie par le Saint-Esprit. En principe, on n'est pas contre. Jésus, c'est... Alors là, c'est le pardon. Aïe. Là, il y a un problème. Parce que le pardon, c'est dans deux sens. D'une part, je dois demander pardon pour mes péchés, tous, pas la moitié. Et je demande au Seigneur de m'aider à tirer un trait sur tout ça. Et puis, je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Tiens, il y a des questions tout à l'heure. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que je suis d'accord avec cela? Même si je le reconnais, c'est normal. Peut-être que pour l'instant, j'ai du mal à pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais c'est quand même un objectif que je dois conserver. C'est très important. Qu'est-ce qui m'empêche? Et ça, c'est quelque chose. Alors, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut être sincère et vrai avec Dieu. Il faut pas jouer, il ne faut pas tourner en rond. S'il y a quelque chose qui m'empêche, il faut l'avouer. Il faut se le dire à soi, au moins à soi-même, et le dire à Dieu. Voilà, la réalité qui m'empêche d'avancer avec Jésus, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que je me suis rendu compte parfois que, effectivement, comme je le disais, on a des personnes qui ont du mal à avancer avec Dieu. Et on se dit, il y a un problème là, hein, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu parles pas bien de Jésus, peut-être que tu n'as pas su lui dire ce qu'il fallait, peut-être que c'est toi, tu ne sais pas prêcher la parole, tu ne sais pas, voilà, tu n'y arrives pas, on se remet en question. Hein. Mais souvent le fait est qu'en réalité, il y a quelque chose dans la vie de la personne, quelque chose que la personne ne veut pas lâcher, quelque chose qui est dans sa vie, qui est caché, qui est intime, on n'a pas à en parler à qui que ce soit, c'est personnel. Mais tant qu'on va vouloir le garder dans sa vie, on ne va pas avancer. On peut s'avancer à l'appel pour prier pour nous, on peut prier, on peut demander l'onction d'huile, on peut changer d'église, on peut aller voir d'autres pasteurs, d'autres églises, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui est à régler dans notre vie, il faut le régler avec Dieu. C'est personnel. Et si je dois venir à Jésus, peut-être pour la première fois de ma vie, m'approcher, et que je ne le fais pas, je dois me demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vraiment envie d'accepter Jésus dans ma vie? Il y a sûrement une raison. Quelque chose que je ne veux pas lâcher. Quelque chose que je ne veux pas perdre. Une peur, une crainte, c'est personnel à chacun. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut arriver à vaincre ces choses par la grâce de Dieu. Faire confiance au Seigneur. Il dit, Seigneur, voilà, c'est difficile. Il y a ça et ça dans ma vie. Je voudrais le garder. Je pense que ça va être difficile de le lâcher. C'est peut-être vrai. Mais le Seigneur est plus grand. Amen. Il est celui qui nous donne la force de surmonter ces obstacles. Et si ça fait déjà un certain temps que je suis avec Dieu, que j'ai accepté Jésus, mais que je suis bloqué, il faut à un moment donné mettre les choses à plat. Sinon, on ne va pas avancer. Il ne faut pas marcher vers le but, il faut courir vers le but. Amen. Et vous savez, quand on veut courir, il faut s'alléger. On ne peut pas courir avec des poids. C'est difficile de courir avec des poids. Hein. On va ramer. Et tout ce qu'on ne veut pas lâcher, ce sont des poids qui nous empêchent d'avancer. Et ça nous fait du mal, ça nous empêche de vivre la grâce de Dieu. Si nous sommes vrais devant Dieu, il va nous montrer. Parce que peut-être qu'on ne le sait pas aussi. Peut-être qu'on a du mal à discerner ce qui ne va pas. Seigneur, montre-moi. Et si on est vrai, il va nous le montrer. Et il va falloir dire, c'est vrai, Seigneur, je reconnais. Maintenant, j'abandonne tout ça et je vais de l'avant. Mais vouloir aller de l'avant et regarder en arrière, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut dire stop, ça ne va pas, on n'est pas bien. On ne vit pas la paix de Dieu, la joie de Dieu, la grâce de Dieu. C'est 50-50 et c'est pas bon, ça ne va pas. Et on finit par être déçu. On se dit, tiens, les frères et sœurs, là, ils sont bénis, ils sont bien, ils sont joyeux, ils servent le Seigneur, et moi, ça ne va pas. Il faut chercher pourquoi. Alors, on a tous eu des périodes difficiles. Il y a des périodes difficiles dans la vie, il y a des choses, des épreuves, mais ça, c'est encore un autre problème. Aujourd'hui, cet après-midi, le problème, la réalité, celle sur laquelle j'insiste, c'est qu'avec Jésus, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Jésus, il est dedans ou il est dehors. Je veux de lui dans ma vie ou j'en veux pas. Et finalement, il faut être clair. Hein. Vous savez, le Seigneur, il ne va pas nous forcer, il ne va pas nous obliger. Il va nous dire, voilà, il nous promet la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il nous promet la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il nous promet le pardon des péchés. Il nous promet la guérison. Il nous promet une vie nouvelle. Mais il nous dit aussi que ce ne sera pas sans difficulté, sans tribulation. Il nous dit aussi qu'il y a des choses difficiles. Il nous dit de venir à lui. Venez à moi. vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous dit, venez à moi, mais il ne court pas vers les gens. Vous savez, même pour les guérisons, hein, Jésus n'a jamais couru vers les gens pour les guérir. On ne voit pas Jésus dans l'évangile courir derrière les malades. Je veux te guérir, je veux te guérir. Permets-moi de t'imposer les mains que je puisse te guérir. Non, 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 non. C'était aux gens de courir vers Jésus. Et oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Pas que les anciens courent vers vous, hein. Eh ouais. Après, je suis malade et personne n'est venu me voir, personne ne m'a appelé. Non, 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 non. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle. Eh ouais. Alors on va appeler Jésus cet après-midi. Chacun pour sa part, hein. On va appeler Jésus. On va lui parler, mais on va lui dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas faire semblant avec Jésus. Il ne faut pas faire semblant. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Jésus, j'ai vraiment péché dans ma vie. On le lui dit, hein. Seigneur Jésus, j'ai péché. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes changer ma vie, la changer complètement. Je veux tirer un trait sur ma vie passée, Jésus. Et je veux que tu m'accordes cette vie nouvelle avec toi. Seigneur, pardonne-moi parce que jusqu'à présent, j'ai peut-être fait les choses à moitié. Il y a des choses que j'ai voulu lâcher, des choses que j'ai voulu garder, et j'ai voulu que ça marche comme ça. Et ça ne marche pas. Alors Seigneur, cet après-midi, je viens à toi, mais je viens entièrement. Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, montre-le-moi. Montre-moi. S'il y a des choses encore qui ne sont pas claires, montre-moi ces choses par ton esprit. Par le Saint-Esprit qui agit maintenant dans notre cœur. Seigneur Jésus, tu me dis qui je suis. Tu me dis ce que tu penses de moi. Et dans les jours à venir, tu vas encore me parler et me montrer qui je suis. Ce que tu penses de moi. Ce que je dois changer, ce qui ne va pas. Seigneur, je veux être vrai avec toi. Merci Seigneur de m'aider. Amen. Amen. Gloire à Dieu.